il y a bientôt 3 ans, les 22 régions de France métropolitaine étaient ramenées à 13 par simple fusion. L'objectif principal étant à terme de réaliser des économies, ce qui ne s'est pas vérifié pour l'instant. Au contraire, en Occitanie par exemple, vaste région née de l'union Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, les élus de la droite et du centre continuent à dénoncer le coût exorbitant de cette opération qui leur impose des navettes entre Toulouse et Montpellier. C'est le droit de suite de ce journal, Stéphane Iglesis.
La nouvelle région coûte trop cher, affirme l'opposition de la droite républicaine et du centre, chiffre à l'appui. Les coûts de fonctionnement ont augmenté de 21% au détriment de l'investissement, affirment ces élus, qui dénoncent notamment pour les 4 sessions plénières à Montpellier un coût de location de 3 millions d'euros sur l'ensemble du mandat. Elisabeth Pouchelon, élue de la droite et du centre.
En toute perte, puisqu'il n'y a aucun investissement durable et que toutes les installations que l'on met en place à chaque assemblée plénière sont démontées et ne resservent plus. Et c'est la raison pour laquelle nous avons insisté pour savoir combien coûtait la réfection de l'hémicycle toulousain.
Carole Delga, présidente PS de la région, répond que le choix politique est d'avoir un équilibre entre Toulouse et Montpellier qui conservera les sessions plénières. Carole Delga sur ce sujet il y a quelques mois.
Il y a 4 réunions sur ce format-là où il y a les 158 élus. Les 2 hémicycles qui existent dans les 2 hôtels de région sont trop petits. Puis le président de la République a indiqué qu'il pourrait y avoir des modifications sur le nombre des élus. Alors on ne va pas se lancer dans des travaux à plusieurs millions d'euros pour 4 réunions par an.
Jean-Pierre Estrampe est l'architecte qui a conçu la salle d'assemblée plénière toulousaine. Selon lui, il faut juste la réaménager pour un budget de 200 à 400 000 euros maximum.
Le volume aujourd'hui est suffisant pour accueillir un plus grand nombre d'élus, mais il s'agit de modifications mobilières relativement mineures par rapport à l'ensemble construit.
La présidente de la région répond que ces coûts de fonctionnement sont nécessaires à la démocratie et que cela n'empêche pas la gratuité des livres scolaires ou des tarifs de trains régionaux attractifs. Toulouse, Stéphanie Iglesis, France Inter.
Invité de ce droit de suite, Olivier Roucan, politologue, chercheur au CERSA, le Centre d'études et de recherche en sciences administratives et politiques, auteur d'un livre intitulé « Culture territoriale » paru chez Gallino. Bonjour.
Bonjour.
Alors le coût de fonctionnement des régions a augmenté, on vient de l'entendre. A-t-on abouti au contraire de ce qu'on cherchait à faire ?
Pas forcément. Disons que lorsqu'il y a des réorganisations de cette ampleur, et on le voit aussi au niveau intercommunal, désormais avec les grandes intercommunalités, il y a dans un premier temps des harmonisations, des tâtonnements, et c'est l'occasion de dépenser un peu plus. Si on prend la question du personnel, notamment du personnel administratif, et bien par exemple, il faut harmoniser les régimes indemnitaires entre des structures qui étaient différentes auparavant, et ça se fait en général par le haut. Donc vous pouvez avoir dans une phase de transition sur augmentation des coûts, mais ce qui est attendu à terme, c'est plutôt une rationalisation administrative, donc on va dire un contingentement de ces coûts, notamment par la mutualisation, et alors là on entre dans le détail de la gestion, donc la commande publique, les achats qui peuvent être rationalisés puisqu'il y a un effet d'échelle et un effet de masse.
Voilà, des gains de productivité qui sont attendus, dit-on, après 4 ou 5 ans d'expérience. Mais de votre point de vue, fallait-il le faire ? Est-ce que ça a une importance que les régions soient plus grandes ?
Ce qui est intéressant dans les textes de loi qui ont été votés à ce sujet entre 2012 et 2017, c'est la volonté sur le plan régional d'avoir des régions qui aient un peu plus de poids, notamment par la richesse qui se produit sur les territoires, et ce faisant dans un contexte de concurrence en Europe, une visibilité, une attractivité un peu plus forte, un peu plus grande. Alors c'est un pari qui est fait, évidemment, hein, mais ça permet a priori à ces entités, a priori c'est ce qui est attendu, donc cet effet de marketing territorial, mais aussi la capacité d'avoir peut-être un potentiel fiscal plus élevé et de pouvoir avoir un effet de levier, notamment dans l'aide aux entreprises, qui sera un peu plus équilibrée. Parce que si on prend l'exemple de l'Occitanie dont vous parliez tout à l'heure, c'est une région qui est assez déséquilibrée d'un côté aérospatial, Toulouse, un fort dynamisme et une forte attractivité auprès des cadres. C'est moins le cas pour Montpellier, Languedoc-Roussillon. Donc le fait d'avoir 2 métropoles et cette macro-région pourrait permettre de fabriquer plus d'équilibre de territoire.
Alors est-ce qu'à contrario, ces grandes régions ne rendent pas l'échelon du département maintenant indispensable pour ne pas éloigner l'administration du citoyen ?
C'est un peu finalement la stratégie qui avait été choisie par François Hollande, sans trop l'expliciter, c'était qu'en faisant de grandes régions, évidemment, c'était le meilleur moyen de garder des départements pour remplir leur rôle de solidarité des territoires, c'est une mission explicite qu'ils ont, et de proximité, en aidant notamment les petites intercommunalités dans des tas de travaux et ce qu'on appelle l'ingénierie territoriale. Donc ça permet à ces départements d'être conservés notamment dans la ruralité, dans le rurbain, l'interstice entre les deux. Par contre, il est envisagé assez fermement sans doute à échelon proche de faire évoluer, voire de supprimer les départements dans les métropoles.
Olivier Roucan, chercheur en sciences administratives et politiques, auteur de Culture territoriale chez Gallinot. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce droit de suite. Allez.